explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
C'est un pays qui déploie des paysages vastes et isolés au cœur de l'Asie, entre la Chine et la Russie. Un territoire trois fois plus grand que la France, peuplé par seulement 3 millions d'habitants. Bienvenue en Mongolie, le pays du ciel bleu et des steppes. Depuis une vingtaine d'années, l'écrivain et éditeur Marc Allot se passionne pour ce territoire, son histoire et ses habitants. Il a parcouru à pied le désert de Gobi, les vertes prairies centrales ou encore la taïga des régions montagneuses. En chemin, il a croisé des éleveurs, des cavaliers nomades, mais aussi des citadins qui avaient fait le choix de la sédentarisation. Ces rencontres ont attisé sa curiosité et lui ont donné envie de se poser pour apprendre à mieux connaître la culture et le mode de vie des Mongols. C'est ce qui l'a amené à passer 3 mois sous une yourte avec une famille d'éleveurs pendant tout un hiver. Une expérience qu'il raconte dans un livre intitulé « Ivre de steppe » aux éditions Transboréales. Tout récemment, il a publié « Mongolie entre l'ours et le dragon » aux éditions Nevikata. Cet après-midi, Marc Allot nous emmène bivouaquer avec les cavaliers nomades au pays du ciel bleu et des steppes. Et en fin d'émission, nous mettrons le cap sur les 50e hurlants pour observer les albatros avec l'ornithologue Fabrice Genevoix. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est préparée par Claire Tesser et réalisée par Hélène Kouyoumdjan avec à la technique Pierre Faucillon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Nos chevaux s'arrêtent au sommet de la dune. Du haut de cette dune, on a une vue sur l'immensité de cette steppe infinie qui nous apparaît verdoyante, et puis tout autour de nous, ces montagnes, aux courbes arrondies. Et la chose étonnante dans ce désert de Mongolie, c'est ce silence assez exceptionnel. Ce matin, le ciel est très très bleu. Il nous apparaît aussi plus grand que jamais. Définitivement, dans ce pays, on a le sentiment d'ouvrir les yeux d'une autre façon. Aussi grand que le paysage est immense.
La journaliste Gwenaëlle Abolivier, hypnotisée par les paysages de steppe en Mongolie. Nous étions en 2002 sur France Inter. Bonjour Marc Allot.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Vous avez ressenti des sensations semblables face au silence et à l'immensité des steppes en Mongolie?
Oui, comme disait Gwenaëlle, le silence est une des premières choses qui vous touchent et ça provoque des émotions. Le silence est effectivement une absence de bruit, mais c'est aussi une substance. Et on a l'impression que cette substance, au milieu du vide, vous emplit, vous apporte quelque chose. C'est très émouvant.
Et puis cette immensité, hein, la première raison qui vous a mené en Mongolie, c'est précisément l'envie, vous le dites, de se confronter à cette géographie de l'immensité.
J'étais un jeune homme avide d'horizons libres, avide d'ascèse, et Dieu sait que la marche est idéale pour se confronter à une géographie. Nicolas Bouvier parlait de l'usage du monde. J'avais besoin d'user mon corps sur ce monde-là, finalement, pour m'approprier ce monde, cette géographie mongole.
Ouais. Et c'est justement en usant d'abord vos chaussures en France, dans une région bien précise, que vous êtes arrivé cette envie de Mongolie.
Et oui, tout a commencé avec une histoire d'amour de jeunesse. Alors une histoire d'amour pour une géographie, parce que durant l'adolescence et puis le début de la vie adulte, plutôt que de courir les filles, j'ai couru les chemins, les chemins de France. Et je me suis vraiment, vers 18 ans, amouraché des paysages du Massif central, mais plus particulièrement du Cosmejan, en Lozère. Ces hauts plateaux calcaires, comme le Causse du Larzac, le Causse de Sauveterre. Mais le Cosmejan est le plus montagnard, le plus aride d'entre eux. C'est, comme le disent les locaux, la petite Mongolie. Ouais. C'est là qu'a été réintroduit le cheval de Przewalski, ce cheval qui s'était éteint à l'état sauvage en Mongolie dans les années 60. Et c'est là que je me suis fait la promesse que 10 ans plus tard, je foulerais des horizons plus vastes, plus grands, ceux de Mongolie.
Mais c'est-à-dire que le Kosmejan vraiment ressemble, il y a maintenant, vous connaissez très très bien la Mongolie parce que vous y êtes allé depuis, il y a vraiment une similitude entre le paysage du Kosmejan et la Mongolie.
Oui, ce serait pour ainsi dire le paysage qui ressemble le plus à celui des steppes, si nous devions en trouver dans notre hexagone. Et puis, lorsque j'avais 20 ans et que j'étais un petit Parisien qui ne voyageait qu'en France à la force de ses mollets, eh bien, ce paysage qui ne doit pas sa beauté à l'harmonie d'un chaos rocheux, à l'harmonie d'un bosquet, mais exclusivement à la manière avec laquelle, à l'aube ou au crépuscule, la lumière du soleil vient enrichir cet espace vide, uniquement composé de ciel et de son reflet, l'herbe.
Mmh. Ouais, ça fait le premier point commun. Alors en 2001, vous avez à peu près 25 ans, vous décidez enfin de vous rendre en Mongolie pour la première fois. Mais alors vous ne choisissez pas de commencer par le plus facile, vous partez pour une traversée à pied du désert de Gobi.
Oui, alors j'avais eu la malchance de tomber sur un proverbe mongol dont je me souviens à peu près, c'est « Erhuni jargal esguiher », la joie de l'homme viril, la plaine inoccupée. Et le jeune homme en construction que j'étais, ouais, en quête de virilité, s'est dit « Quitte à aller en Mongolie, autant aller là où il y a peu de monde.
Ouais. »
Le désert de Gobi, le plus vaste désert d'Asie, 1500 km sur 500, que j'ai traversé en 6 mois de marche.
C'est un désert froid, c'est ça ?
C'est effectivement un désert froid, ça veut dire que là, si on fait une moyenne des températures sur l'année, il y fait généralement en dessous de 0 degré.
Ouais, donc désert froid, immensément vide. Vous dites, vous écrivez dans un de vos livres, « La vertu des steppes » aux éditions Transboréales, « Mon premier contact avec la steppe s'est apparenté à une morsure. Un peu plus loin, vous écrivez, la mort paraît omniprésente. Le Gobi meurtrit les chairs et l'esprit pour l'éternité. S'il fallait lui attribuer des traits humains, je dirais qu'il est avare en tout sauf en péril. Vous vouliez de la rudesse et de la virilité.
Et j'en ai eu, puisqu'en 2001, la Mongolie était frappée par un épisode climatique très difficile, qui a pour nom mongol Dzud. Et ce sont des hivers particulièrement rudes, des printemps qui traînent, qui s'éternisent, qui sont ponctués de tempêtes, de redoux, puis de gelées à nouveau. Le bétail tombe en nombre. Il y avait un bétail de 30 millions de têtes de bétail, un cheptel de 30 millions de têtes de bétail à l'époque, et 10 à 12 millions venaient de périr en 2 années de Dzud. C'est ce qui me faisait dire que cette mort était omniprésente parce que les paysages que je traversais étaient ponctués du cadavre des troupeaux. La Mongolie traversait alors une période très difficile et le jeune homme que j'étais a véritablement été ému par le dépouillement du paysage, mais aussi le dépouillement des gens.
Ouais, la vulnérabilité face à ce climat rude, les saisons sont très marquées en Mongolie.
Oui, et une vulnérabilité qui force à la simplicité, qui force à la modestie. Ouais. Et donc finalement, c'était très bien pour moi de traverser ce pays à pied.
Alors à pied, vous avez choisi de le faire à pied. Pourquoi pas à cheval? Parce que c'est quand même le pays des cavaliers avant tout, la Mongolie.
À pied au pays du cheval, ouais. Parce que finalement j'aurais pu aller au Laos, qui est le pays des éléphants. J'aurais quand même cheminé à pied parce que je ne me sens pas spécifiquement cavalier, même si, comme vous Daniel, j'ai dû faire des stages d'équitation et de poney lorsque j'étais petit.
C'est vrai.
Je me sens davantage marcheur. Et puis, soyons francs, à cheval ou à vélo, dans une descente, nous galopons ou nous pédalons ou nous sommes en roue libre. À pied, vous ne devez votre avancée qu'à votre mental, qu'à votre force, qu'à votre volonté. Et puis surtout, lorsque vous êtes à pied, vous apercevez un fossile, une fleur, une pierre, une agate, etc. Vous pouvez vous arrêter à chaque pas. Et puis à chaque pas, vous pouvez aussi faire connaissance avec les gens qui sont véritablement le sel du voyage.
Eh oui, il arrive, évidemment, dans cette Mongolie très peu densément peuplée, il arrive que l'on fasse des rencontres.
Nous sommes toujours à quelques kilomètres de Rovd. Nous voici dans une plaine immense. Et ce que vous entendez, ce sont les chameaux, une caravane de chameaux, telle qu'on l'a pratiquée dans l'ancien temps. Une caravane de nomades et de chameaux. Vous avez en tête 3 ou 4 Mongols sur leurs chevaux, l'homme, la femme et un enfant. Vous avez ensuite les chameaux. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 attachés tous ensemble et portant de lourds fardeaux. Et puis derrière, les petits chameaux, les chamelons. La caravane repart, il y a des caisses, il y a de longs bâtons de bois. Ce sont ceux qui serviront à construire la yourte, la maison des nomades. Et derrière les chameaux, maintenant arrivent, mais vous n'entendrez pas, mais arrivent les vaches. Les vaches, il y en a une bonne dizaine, peut-être une quinzaine. Et ensuite, un troupeau de moutons, toujours entouré par des enfants à cheval. Un troupeau de moutons, difficile de dire, peut-être une centaine de têtes. Et maintenant, les chameaux ont disparu. Ils sont déjà, depuis le temps que je vous parle, ils sont déjà à plus d'une centaine de mètres.
Extrait d'un reportage diffusé en 1993 sur France Culture. C'est encore possible, près de 30 ans après ce reportage, de croiser ce genre de caravane dans les steppes de Mongolie, Marc Allot?
Tout à fait. Alors, ce genre de caravane, ce sont des nomadisations, c'est-à-dire que les éleveurs, à l'inverse des bergers chez nous, ne se contentent pas de transhumer, c'est-à-dire c'est une transhumance, c'est le professionnel qui se déplace avec le troupeau. Là, ce sont de véritables nomadisations. Le berger et le troupeau, mais aussi sa famille, mais aussi les animaux de bât ou le tracteur qui servent à transporter, comme le disait le reporter, la yourte, le bagage, de quoi faire du feu, etc. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que sur une population d'environ 3 millions d'habitants, il y a 30% de cette population qui vit encore directement ou indirectement de l'élevage. Mmh. Et cet élevage, c'est un élevage extensif, un pastoralisme nomade.
Ouais, parce que c'est une façon aussi de respecter la steppe, de ne pas rester trop longtemps, de prélever juste ce qu'il faut pour le troupeau et d'aller un peu plus loin.
Voilà. Si on est marxiste, le pastoralisme nomade, c'est un mode de gestion du territoire. Ouais. Si l'on est anthropologue, et on a à ce moment-là une vision un peu plus large, un peu moins étriquée, c'est un mode de pensée, c'est un mode de vie. Donc certes, une manière d'exploiter les ressources, d'en vivre, mais aussi de les pérenniser, de ne pas les détruire.
Alors vous avez souvent été accueilli sous les yourtes des nomades qui se dressaient sur votre chemin de temps en temps. L'hospitalité des nomades, c'est pas une légende ?
Alors ça n'est pas une légende, ça n'est pas non plus un réflexe de cœur. C'est une règle sociale qui veut que la personne qui passe à proximité de votre yourte, vous devez finalement, ou vous pouvez l'accueillir, tout du moins lui adresser la parole, lui venir en aide si cette personne en a besoin. Oui. Cette personne, cela peut être un touriste, cela peut être un voisin qui se rend à la source la plus proche, ou, comme les gens que votre reporter a croisés, des éleveurs nomades qui traversent la région en direction des pâturages.
Alors vous en avez bénéficié de cette hospitalité, de ce devoir d'assistance au vent qui passe, parce que lors de votre premier voyage dans le désert de Gobi, le temps est parfois cruel et rude, il envole votre tente, hein, vous êtes un petit peu dans le dénuement le plus total, et à l'entrée d'une yourte, alors on ne frappe pas à l'entrée d'une yourte, hein, ce sont les chiens qui annoncent, hein, je crois, deux Mongols, un couple de vieilles personnes, vous accueillent. Je vous laisse raconter cet accueil.
Oui, c'est une anecdote fondatrice pour moi. Lors du premier voyage, effectivement, en 2001, j'ai parlé de ces conditions météorologiques très froides, très difficiles. Mon compagnon de marche, Laurent, et moi traversions le désert de Gobi. Et puis la tente, effectivement, avait été détériorée par une très forte tempête de neige. Au point qu'à l'aube, le matin, alors que le jour ne s'était pas encore levé, nous avons jeté toutes nos affaires dans notre sac, chargé le sac sur le dos, et puis à la boussole, nous nous sommes remis en route en direction de l'ouest. Et puis vers 10 heures, après 5-6 heures d'une marche harassante, nous avons aperçu une yourte misérable au loin. Nous l'avons rejointe. Là, nous ont accueilli deux personnes, Yadam Souren et son épouse, des sexagénaires, qui se sont aussitôt empressés de nous faire un thé, symbole de l'hospitalité, mais aussi pour nous réchauffer. Et puis le soir, à l'heure du repas, ils ont cuisiné une toute petite quantité de soupe. C'était ce qu'ils gardaient pour eux et qu'ils nous ont offert, et ils se sont privés de repas.
Ils n'avaient plus rien à manger après vous avoir...
Ce geste nous a bouleversés. Nous sommes repartis le lendemain en leur laissant une grande partie de l'argent que nous avions, même si, au milieu du désert de Gobi, l'argent, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais symboliquement, de même qu'ils s'étaient démunis de ce qu'ils avaient de plus fort, nous nous sommes démunis de ce qui pourrait nous faire vivre les jours suivants. C'était un engagement réciproque.
Alors au début, c'est pour la géographie que vous y êtes allé. Et finalement, si vous y êtes resté, si 20 ans après, vous continuez régulièrement d'aller en Mongolie, on le comprend, ce sont pour ces gens que vous avez rencontrés. Après avoir traversé les paysages de Mongolie, vous avez eu envie après de vous poser. Vous avez vécu 3 mois avec une famille mongole en plein hiver. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé et ce qu'ils vous ont appris. Le temps d'un bivouac sous les yourtes de Mongolie avec l'écrivain et éditeur Marc Allot cet après-midi sur France Inter. Desert Song, c'était Edward Sharp and the Magnetic Zeros sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Il gèle à pierre fendre dans le vallon pourtant protégé des vents du nord. Tout y paraît figé. Je me tiens moi-même immobile en regardant le 4x4 s'éloigner dans l'ombre. Ses occupants m'ont déposé dans un campement d'éleveurs nomades dont j'ignore l'emplacement exact et dont un regard suffit à faire le tour. Une yourte et une bergerie blottie contre les rochers. Rien de plus avant le labyrinthe des collines qui courent sur des kilomètres. Le soleil couchant annonce un soir de décembre comme les autres en Mongolie. Sauf pour moi qui vais cantonner là tout l'hiver. À mesure que le froid devient saisissant et râpe la gorge comme du poivre, je suis surpris par la rusticité des lieux. La yourte paraît minuscule, écrasée par le silence, d'une fragilité inquiétante. Resterai-je vraiment là les 3 prochains mois, dans une famille que je ne connais point et dont je parle mal la langue?
(Rire)
C'est Eric Oswald, à l'instant, qui lisait les premières lignes d'un de vos livres, Marc Allot, Ivre de Steppe, paru aux éditions Transboréales. Dans ce livre, vous racontez donc les 3 mois que vous avez passés en plein hiver dans une famille de nomades en Mongolie, sous leur yourte. Vous ne connaissiez pas, hein, comme on l'entendait dans cet extrait, vous ne connaissiez pas cette famille qui vous a accueilli. Comment vous les avez rencontrés? Comment vous les avez trouvés?
En Mongolie, même si on ne connaît pas une région, on peut, depuis Oulan-Bator, rentrer en contact avec cette région, avec des habitants, etc. Parce que chaque région a des gens qui sont partis en direction de la capitale, s'y installer, et les réseaux, les connexions permettent, voilà, de finalement trouver des amis, des contacts, une famille capable de vous accueillir.
Mais qui sont d'accord pour accueillir un Français qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu et qui va partager?
Oui, parce que je pense qu'ils ne se doutaient pas de ce que la personne resterait ou que je resterais 3 mois.
Ah, vous leur aviez pas dit que vous resteriez 3 mois?
La question s'est posée dès mon arrivée. Tu veux rester? Oui. Combien de temps? 3 mois. Est-ce que ça pose problème? Lui et sa femme se sont regardés et ils m'ont fait non. Aussi simplement que ça. Et 10 minutes après seulement, ils me mettaient leur petit Khatna, leur fils d'un an et demi, dans les bras en me disant « C'est ton nouveau petit frère, maintenant c'est toi qui t'en occupes. »
Preuve de conscience, de confiance.
Oui,
absolue.
Et puis entrer en matière très directe, ouais. Voilà, comme les Mongols en ont l'habitude.
Vous aviez une certaine appréhension à passer ces 3 mois sous cette yourte. On est en plein hiver. L'hiver en Mongolie, il faut en dire 2 mots, hein, mais ça veut dire quoi l'hiver en Mongolie?
Alors, l'hiver
là
en
où vous étiez en tout cas.
L'hiver en Mongolie, et dans cette région qui est une des plus froides, ouais, du pays, c'est moins 30 très régulièrement, moins 25 quand il fait beau et chaud. Chaud selon les dires d'un éleveur mongol, et puis jusqu'à moins 48 lorsqu'il fait très froid et qu'il, ouais, vente. Ceci dit, la perception que nous avons de l'hiver n'est pas tout à fait celle que n'est pas partagée par les éleveurs mongols. Il faut imaginer que pour nous, l'hiver est effectivement cette saison froide, glaciale, difficile. Pour un éleveur mongol, c'est aussi une saison durant laquelle on peut difficilement être à l'extérieur. Donc tout le monde est sous la yourte à discuter. C'est une période d'intense sociabilité.
Oui. C'est pour ça que vous aviez choisi l'hiver, parce que vous saviez qu'il y aurait ces moments sous la yourte à discuter.
Cette promiscuité est peut-être ce qui me faisait le plus peur, mais en même temps, je savais que je ne pourrais, grâce à elle, que je ne pourrais pas échapper à la réalité mongole.
Ouais.
Lorsque je voyageais à pied, si j'avais assez d'une situation, d'une ambiance, il me suffisait de repartir, de reprendre la marche et hop, finalement, je passais, je m'esquivais, je prenais la poudre d'escampette.
Ouais.
Là, j'étais d'une certaine manière prisonnier, ouais, volontaire,
oui,
mais prisonnier de ce campement, et c'est ainsi que j'ai pu intégrer une famille.
Ouais, et c'est vrai que la vie sous la yourte est très codifiée, à commencer par l'organisation de la yourte elle-même, qui suit des règles très précises.
Selon le code de la yourte, les femmes et la cuisine sont toujours à l'ouest. La partie est est attribuée au chef de famille et aux visiteurs.
Au sud, la porte.
Oui, l'entrée de la yourte est toujours orientée vers le sud.
Toutes les yourtes?
Oui, toutes les yourtes.
Est-ce qu'il y a d'autres codes qui régissent la vie de la yourte?
Oui, par exemple, quand on nous offre un bol d'arak, il ne faut pas le poser par terre. Il faut goûter, même si tu n'aimes pas, et le passer de main en main. C'est du lait de jument fermenté.
Ça veut dire que c'est un peu alcoolisé?
Oui, la fermentation peut donner un peu d'alcool.
Comment on dit santé en mongol? Ok.
Extrait de Échappée belle sur France 5 avec Raphaël de Casabianca. C'est pas simple, hein, de dire santé en mongol quand on trinque, Marc Allot.
Alors il existe un mot, il existe une expression, yerur mendin tolo, mais on peut aussi dire tout simplement santé, ment.
Ah oui, parce que là il avait l'air de dire quelque chose de beaucoup plus long.
Tout à fait. Globalement, il lui a dit inutile de souhaiter bois.
Ah oui, d'accord, très bien. Vous parlez vraiment le mongol couramment? C'était aussi ça le but, c'était d'apprendre la langue?
C'était une des raisons, une des motivations, mais j'avoue j'avoue que je l'ai davantage apprise, la langue, en séjournant à certaines reprises à Oulan-Bator et en prenant des cours de langue intensif qu'avec un éleveur. Et je ne pouvais pas reprocher à cet éleveur d'être un mauvais professeur.
Ouais. D'ailleurs, au début, vous posez beaucoup de questions, pas seulement sur la langue, mais sur ce qu'il y a à faire, sur ses modes de vie. Et puis, vous vous rendez compte que vous en posez un peu trop, des questions.
Et oui, si on ne veut pas passer pour un enquêteur ou un officier de police judiciaire, il faut savoir se taire et il faut savoir adopter la posture de l'anthropologue. Ouais. Voilà. Ce que les ethnologues appellent l'observation participante. Ouais. Discuter, poser des questions, mais pas trop, et surtout participer aux tâches de manière à susciter des discussions. Et c'est tout ça qui vous apporte les réponses. Ouais,
et ça, vous l'avez fait, hein, participer aux tâches. On l'a dit déjà, ils vous mettent leur petit d'un an et demi dans les mains pour vous en occuper. Et puis aussi, on vous confie, alors là, c'est presque de l'ordre du bizutage. En tout cas, on vous met à l'épreuve en vous donnant une tâche qu'on confie aux plus jeunes, normalement. Mais c'est une tâche cruciale, aller chercher les bouses séchées qui servent de combustible pour chauffer la yourte. Ça, vous l'avez fait?
Oui, tous les matins, tous les soirs. C'est de même que la corvée de neige, hein, grâce à laquelle on va obtenir de l'eau, on fera du thé, on fera la soupe le soir, etc. Oui, mais ces corvées sont une joie, parce que déjà, elles vous permettent de découvrir le campement, elles vous permettent aussi de vous défouler. Hein. Mmh. Moi, certes, je suis un petit cerveau mal construit qui s'intéresse à la culture mongole, mais aussi un corps qui a besoin de se dépenser. Ouais. Et Dieu sait que les corvées dans le froid vous permettent de vous dépenser, de vous défouler. Et chose assez étonnante, on se dirait que ça peut être ennuyant, mais c'était aussi le seul moment d'avoir un peu d'intimité, d'être seul finalement, avant que j'aille garder le troupeau durant des journées entières.
Et oui, parce qu'ils vous ont aussi, alors ça c'était pas dès le début, il a fallu quand même que vous montriez que vous étiez digne de confiance. D'ailleurs, ils vous ont d'abord confié leur fils avant de vous confier leur troupeau, hein. C'est étonnant.
Ils savent, dans l'esprit d'un Mongol, il n'est pas d'être humain qui ne sache pas s'occuper d'un enfant. Ouais. Donc pour eux, ça leur apparaissait tout à fait naturel. En revanche, ils avaient bien compris que gérer le compte en banque sur pattes qu'est le troupeau, demandait de petits talents de gestionnaire que je n'avais pas. Il m'a fallu donc apprendre, durant quelques semaines de formation, entre guillemets. En Mongolie, on ne vous apprend pas véritablement les choses. On vous les montre, vous les répétez, et c'est par répétition que vous allez apprendre.
Mais comment le troupeau se nourrit déjà dans cet espace qui est, quand la neige n'est pas présente, déjà pas très fourni, et alors là, recouvert de neige, comment ce troupeau tient
le coup ? Les races animales mongoles robustes sont toutes locales et se contentent de l'herbe de la steppe jusqu'en hiver, et ça n'est qu'au printemps qu'on affourage le bétail, qu'on fournit un peu de foin aux femelles qui s'apprêtent à mettre bas, à agneler au mois de mars. Auparavant, le bétail se débrouille. Et c'est assez touchant de voir ces animaux gratter la neige pour aller chercher l'herbe en dessous. C'est assez touchant d'essayer de les mener sur les pentes des collines les plus herbues. Tout ça forme une certaine poésie à laquelle j'étais étranger auparavant, à laquelle je suis un peu plus familier, mais qui véritablement m'a sensibilisé à la vie quotidienne des éleveurs mongols.
Et vous nous disiez en début d'émission qu'ils sont vulnérables parce que effectivement ce troupeau c'est leur fortune, mais selon les intempéries, ils peuvent le perdre. Là-dessus, ils sont fatalistes. Comment ils gèrent cette vulnérabilité extrême ?
Une certaine abnégation, ça c'est évident. Et puis peut-être un fatalisme mais joyeux, c'est-à-dire qu'on, plutôt que de se plaindre dans l'épreuve, on se réjouit d'être capable de la traverser, cette épreuve, d'en venir à bout, de la franchir. J'ai toujours été étonné de lorsque je prenais le bus pour traverser le pays et que le bus tombait en panne au passage d'un col, de voir tout le monde rire en descendant du bus pour le pousser, alors que chacun avait payé son billet et alors que le chauffeur, qui lui était payé par l'entreprise, restait assis. Il y a une joie de vivre, une capacité à rebondir, tout à fait stupéfiant chez les éleveurs.
Ouais. Et puis, vous racontez aussi qu'il y a des façons de se raccrocher avec des croyances, des rituels à mener, mais ils les font avec, là aussi, un certain pragmatisme.
Et un certain détachement. Oui, ouais, tout à fait. Je me souviens du rituel effectué à l'aube, au sommet de la colline, lors du Nouvel An, lors de la première aube de l'année. Gotof, le père de famille, et moi allons faire des libations de lait, des sacrifices de viande dans le feu, des sacrifices d'alcool, finalement tout ce qui a de l'importance et de la valeur aux yeux d'une famille d'éleveurs. Et puis, à l'issue de tout ça, après moult prosternations, nous redescendons en direction du campement pour nous réchauffer avec un thé. Il faisait nuit, il faisait moins 40, nous commencions d'avoir froid. Et je lui dis, voilà, nous avons sacrifié tout ça à l'esprit de la montagne qui nous protège, mais est-ce que ça marche? Et là, encore une fois, Gotov m'a fait... Je sais pas, mais on aura tout fait pour.
Oui, c'est ça.
Et c'est assez beau de voir. Ça ne veut pas dire qu'ils se fichent de tout. Ça veut dire qu'ils prennent tout avec un peu de recul.
Oui.
Quand on est isolé dans la steppe, on croit à tout, mais oui. On croit avant tout à soi. On oui. vit à la sueur de son front.
Et il en faut du recul. Beaucoup de nomades de Mongolie se sédentarisent dans les faubourgs de la capitale Oulan-Bator. Nous allons y faire un tour dans un instant. Et puis vous nous parlerez aussi des chants diphoniques. Marc Allot, avec nous cet après-midi, le temps d'un bivouac en Mongolie sur France Inter. Regarde, c'était Barbagallo sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Quand je pratique le chant diphonique, je pense à la beauté de la nature et de notre pays, à la grandeur de notre steppe et à la splendeur de nos montagnes. Et je les vénère dans ma pensée.
Le chanteur Sengye Dorje Nanjid, décédé en 2020, il pratiquait ce chant diphonique mongol très caractéristique. On l'entend, hein, il chante, il émet deux sons à la fois. Comment font-ils, Marc Allot, pour chanter ainsi avec deux voix?
Un diphoneur vous dirait qu'il ne chante pas. Les Mongols considèrent que la diphonie n'est pas un chant, c'est une technique vocale. Pour eux, il ne s'agit pas de dou, le ouais. chant, mais de khumi, donc qui signifie le larynx. Et grâce à cette technique, on va émettre un bourdon, une note basse qui globalement reste assez stable, sur laquelle ensuite, par un jeu de langue, etc., on va venir poser des harmoniques et finalement pouvoir décliner une mélodie. Senge Dorje était jusqu'à son décès le doyen des diphoneurs en Mongolie. Je crois qu'il était originaire de la province de Khoft et je crois me souvenir d'ailleurs qu'il était directeur du théâtre de la ville de Khoft. Et c'était l'un des plus grands pratiquants. C'est quelqu'un qui avait eu à cœur à la fois d'étudier en contexte rural la diphonie, mais aussi dans un contexte un peu plus universitaire à l'école de musique, de la transmettre à des jeunes citadins.
Ouais. La musique et le chant, alors on l'entend, pour eux c'était pas vraiment un chant, nous on n'a pas tellement d'autres mots pour le décrire. Alors, ça a une part très importante en Mongolie, aussi bien pour les moments de la vie quotidienne qui ont tous des chants associés, et puis les moments plus extraordinaires.
Tout à fait, en parlant de moments extraordinaires, je me souviens de mon ami Nara, qui accouche de son premier enfant en France, et qui à la maternité surprend, lorsqu'on lui met son enfant dans les bras, surprend toute l'équipe de la maternité en entonnant un chant. Si elle avait été à la campagne, à l'heure de la traite, au moment de traire les brebis et les vaches, elle aurait pu également chanter pour détendre les animaux. Et peut-être vous souvenez-vous de ce film de Biamba Surendava, L'histoire du chameau qui pleure, où un vielleux avec sa vielle mongole et avec la technique de chant diphonique attendrit la femelle, la chamelle, qui a rejeté son chamelon.
Ouais. Et alors ces chants diphoniques, à un moment, ils s'étaient un peu perdu dans la culture mongole, parce que l'histoire récente de la Mongolie est pleine de sursauts, de changements, de bouleversements. Ça a été un pays de l'Union soviétique, la Mongolie, et puis finalement la Russie, mais c'est relativement récent, 1990, la Russie s'est retirée complètement, la Mongolie est aujourd'hui totalement indépendante, et une partie de la culture a été mise un peu sous silence pendant une certaine période.
Bien sûr, il faut imaginer que la période socialiste, qui court des années 20 aux années 90, a été une période symbolisé par le progrès, l'industrialisation, et donc un certain nombre de faits culturels, faits sociaux, etc., ont été mis en sourdine. Il faut savoir aussi que le chant diphonique, qui est aujourd'hui une sorte de drapeau, d'emblème de la musique mongole, ne l'a, jusqu'à très récemment, jamais été. Mmh. Il s'agissait de morceaux très courts, diphonés par les éleveurs à la garde au pâturage, et encore, c'était circonscrit aux régions de l'Ouest, d'où est originaire Senge Dorje. Mmh. Et maintenant, tous les éleveurs, ou plutôt tous les chanteurs de Mongolie, ils ont vu aussi un bénéfice commercial, c'est-à-dire que c'est une technique époustouflante qui leur permet d'exporter leur art à New York, Bangkok, etc. Ça. C'est devenu un emblème.
C'est ça, c'est plus qu'une renaissance là.
Complètement, c'est une réinvention.
C'est une réinvention. Alors si la Mongolie est un pays très peu densément peuplé, 3 millions d'habitants pour un pays quand même grand comme 3 fois la France, la capitale, Oulan-Bator, est-elle surpeuplée? Allons y faire un tour.
Oui, on s'approche de la ville.
Incroyable. Et il y a même les montagnes enneigées derrière.
Il y a 25 ans, Oulan-Bator avait une faible population et on y accédait par une petite route. Et il n'y avait aucun embouteillage. C'était bien comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'encombrements. On est bien mieux à la campagne.
Il y a beaucoup de nomades qui partent de la campagne pour venir en ville.
Depuis 1990, avec la chute de l'ancien système socialiste, on a vu un nouveau système anarchique se mettre en place. À cette période-là, tout le bétail qui appartenait à l'État a été redistribué aux éleveurs. Et ils ont obtenu le droit de vendre leurs animaux pour gagner de l'argent, pour venir s'installer en ville. Ils sont de plus en plus nombreux à chercher de nouveaux horizons et à s'urbaniser.
Extrait d'Échappée Belle sur France 5. Marc Allot, ils sont nombreux, les jeunes mongols issus de familles nomades qui viennent planter leur yourte dans les faubourgs d'Oulan-Bator pour se sédentariser de façon un peu anarchique autour de la ville.
Alors les jeunes, oui, 35% de la population ou 40% de la population d'Oulan-Bator a moins de 35 ans. Autrement dit, c'est une ville débordante de jeunesse, de vitalité, et il n'y a qu'à se promener sur ces grandes avenues pour voir ces lignes de jeunes se tenant bras dessus et riant à gorge déployée. Et puis, pour rejoindre votre propos, il faut savoir qu'Oulan-Bator aujourd'hui a 100 fois plus d'habitants qu'en 1935. Mmh. Autrement dit, c'est une ville champignon, c'est une boomtown, comme on dirait en anglais, qui ne cesse de grandir avec assez peu de planification de l'urbanisme et donc effectivement un certain désordre et des habitations comme les yourtes, vous le disiez, qui grignotent les collines, les quartiers de yourtes, qu'on dit parfois être des bidonvilles, qui grignotent effectivement les collines et ne cessent de s'étendre.
Mais alors, quel avenir pour
pour les Mongols, pour cette ville et puis pour le pays ici. La majeure partie de la population commence à s'agglutiner autour de cette ville qui n'offre pas du travail pour tout le monde non plus. Et en même temps, cette culture du pastoralisme, cette culture nomade est en train de se perdre un peu. Où on va comme ça ?
Très difficile de répondre. Si j'étais devin, Daniel, je serais riche, hélas. Donc, je ne peux qu'observer et constater. Effectivement, explosion de la population urbaine, la recette ou la solution, une des solutions à ce problème, n'est-elle pas de développer les régions ? N'est-elle pas de tenter de fixer les gens dans leur région natale ? Et Dieu sait que les Mongols sont attachés à ce qu'ils appellent leur Nutok, leur pays de naissance. Nous avons toujours l'impression nous imaginons toujours les Mongols et les éleveurs comme des vagabonds errants poétiquement dans la steppe, alors qu'ils se sentent farouchement ancrés à une région. Ils ont plusieurs résidences saisonnières, mais ils sont ancrés. C'est certainement là une des clés du développement de la Mongolie, autrement que par une concentration maximale et suicidaire de sa population dans la capitale. Donc, développement des régions et peut-être aussi diversification de l'économie en jouant d'autres cartes que simplement l'exploitation minière.
Ouais, parce qu'il y a aussi, effectivement, même c'était un surnom de la Mongolie, la Mingolie, avec toutes ces exploitations minières. Pour pas donner un regard trop noir, trop pessimiste, parce que vous êtes beaucoup plus nuancé que ça dans votre dernier livre, Mongolie entre l'ours et le dragon. L'ours, c'est la Russie et le dragon, c'est la Chine. Il faut dire que cette Mongolie, avec ses 3 millions d'habitants, elle est encerclée d'un côté la Russie, 144 millions d'habitants. De l'autre côté, la Chine, 1,4 milliard d'habitants. Donc effectivement, même si le pays est grand, la population est bien petite par rapport à ces deux voisins. Mais vous dites que la situation n'est pas si noire. Finalement, la culture est vive. Ils arrivent à mongoliser, c'est votre néologisme, tout ce qui vient autour et qui vient de l'extérieur.
Oui, et nous parlions des mines à l'instant. Je crois que c'est peut-être une des solutions. L'exploitation des ressources minières, c'est 30% du PIB, donc c'est absolument structurant, c'est totalement majeur. Il y a sûrement là une manière de structurer l'économie et de structurer la politique de manière à ce que cet afflux d'argent puisse servir à un processus de développement, à un projet de développement qui serve à la population.
Marc Allot, vous écrivez aussi dans l'introduction de Mongolie entre l'ours et le dragon, ce dernier livre, retourner dans ce pays, c'est imposer sans lassitude parce qu'il n'est pas un tatouage immuable, mais une fresque en évolution, parce qu'on ne saisit les choses qu'un temps avant de le voir s'échapper à nouveau. Autrement dit, vous n'en aurez jamais fini avec ce pays que vous avez pourtant maintes fois visité, que vous avez exploré en tous sens. Vous n'en aurez, c'est l'histoire d'une
vie. Je m'en lasserai peut-être un jour, mais je ne le souhaite pas. Voilà. Ouais. Et les Mongols, depuis 20 ans, ne cessent de me surprendre, ne cessent de me faire rire avec beaucoup de passion et d'empathie. Et je leur en sais diablement gré.
Ouais. Merci Marc Allot.
Merci,
je cite
Daniel.
Deux de vos ouvrages les plus récents, donc Ivre de steppe aux éditions Transboréal, dans lequel vous racontez ces 3 mois avec une famille mongole en hiver sous une yourte. Et puis ce tout dernier livre qui vient de paraître, c'est un petit livre, mais on découvre plein de choses sur la vie, la culture, la politique, Mongolie entre l'ours et le dragon aux éditions Nevikata. Nous allons mettre une liste plus complète de vos ouvrages sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Restez avec nous Marc Allot, aujourd'hui c'est la journée international des albatros. Alors nous allons nous envoler dans un instant à la découverte de ces oiseaux marins avec l'ornithologue Fabrice Genevoix. Baby. Maple Glider qui chante Swimming. Et merci à Muriel Pérez qui signe la programmation musicale de cette émission.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Nous sommes déjà à 57 degrés de latitude sud, donc dans ce qu'on appelle les 50e hurlants. Alors les 50e hurlants, ce sont des bandes de latitude dans lesquelles il y a des vents souvent très très importants qui peuvent hurler, mais peut-être faire hurler aussi parfois les caporniers qui étaient pendant des jours et des jours pris dans ces tempêtes, quoi. Ce qui nous suit, hein, ce qui nous traque presque, eh bien c'est l'albatros, enfin les albatros. L'albatros à sourcils noirs dans un premier temps, qui est le plus petit, et puis le grand albatros, l'albatros sur l'heure, hein, avec plus de 3 mètres d'envergure. Et l'albatros vient remplir l'atmosphère juste avant d'arriver dans les eaux antarctiques. Dès que l'on sera dans les eaux antarctiques, il nous laissera.
Le photographe naturaliste Rémi Marion dans les 50e hurlants sous l'œil des albatros. Bonjour Fabrice Genevoix.
Bonjour.
Vous êtes ornithologue et en ce 19 juin, journée internationale des albatros, vous allez donc nous emmener à la découverte de ces oiseaux marins. Vous les avez observés à de nombreuses reprises en mer, justement dans l'hémisphère sud, ces albatros qui parfois volent dans le sillage des voiliers. Ils ont un vol particulièrement majestueux.
Ah oui, tout à fait. Les albatros comptent parmi les oiseaux, je dirais, les plus performants en termes de vol, notamment ce qu'on appelle le vol à voile. Ils sont adaptés au régime de vent qui parcourt ce fameux océan austral, si cher au cœur des navigateurs qui parcourent le vent des globes. Ils ont des ailes très effilées, très longues, et en fait, ils volent un peu à la manière de planeurs, donc ils peuvent ne pas donner un seul coup d'aile pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et parcourir des milliers de kilomètres. Donc ils sont vraiment fantastiques à ce point de vue-là.
Oui, c'est-à-dire que dans ces régions du globe, les 40e rugissants, les 50e hurlant, le vent qui souffle très fort, pour eux, ça fait leur affaire.
Oui, tout à fait. Ce sont des vents. C'est un régime de vent d'ouest. Hein, donc, les vents viennent essentiellement de l'ouest dans cette partie du monde. Donc, les albatros tirent des bords à la manière d'un voilier. Oui. Et ils utilisent la force naturelle de ces vents d'un point de vue biomécanique. Et ils dépensent très très peu d'énergie. Et ils peuvent parcourir comme ça des kilomètres jusqu'à 1000 kilomètres par jour sans dépenser quasiment la moindre énergie. Donc, ce sont vraiment des oiseaux très bien adaptés à ce régime de vent perpétuel qui balaye l'océan austral.
1000 kilomètres par jour. Et ils sont capables de vivre combien de temps en mer sans toucher terre ?
Alors ça, c'est une autre particularité, je dirais, de ces albatros. Ce sont vraiment des oiseaux marins au sens strict du terme, parce que lorsqu'ils quittent la terre ferme, ils reviennent plus à terre. C'est-à-dire qu'un jeune albatros, lorsqu'il va quitter son nid, notamment lorsque c'est un albatros hurleur dont parlait Rémi à l'instant, ils vont passer jusqu'à 6 à 7 ans en mer sans fouler le sol, parce qu'ils ne sont pas aptes à se reproduire. Ce sont encore des adolescents. Donc ils vont revenir à terre vers l'âge de 7, voire 8 ans, voire 9 ans pour certains, pour la première fois. Donc pendant 9 ans, ils vont écumer l'océan austral.
Alors, il se pose quand même parfois sur l'eau, il reste pas en l'air comme ça pendant 9 ans.
Alors oui, il se pose sur l'eau, et notamment, il se pose sur l'eau lorsqu'il n'y a pas de vent. C'est-à-dire, ça arrive assez rarement, ouais. Mais lorsqu'il n'y a pas assez de vent, c'est pas la peine d'essayer de voler, puisque la dépense d'énergie est trop importante. Donc, ils se posent sur l'eau, à la manière d'un canard, par exemple, ouais. Ils attendent que le vent souffle. Mais ils sont capables de se reposer, d'avoir une espèce de système de relaxation assez poussé en plein vol. Donc, ils sont capables de s'assoupir, vraiment dormir, mais de s'assoupir en volant.
Ah oui, ils peuvent faire une sorte de sieste réparatrice en volant. Et ils ont besoin, finalement, de la terre ferme, uniquement pour la reproduction.
Exactement. Pour eux, la terre ferme, c'est une escale temporaire pour pondre un œuf. Parce que le problème des oiseaux marins, même les manchots, hein, qui sont parmi les mieux adaptés au milieu marin, ils ont besoin de la terre ferme pour pondre un œuf. Aucun oiseau n'est capable de pondre un œuf dans l'eau. Oui. Donc les albatros font pas exception. Il faut qu'ils regagnent la terre ferme, souvent des îles d'ailleurs, des îles isolées dans l'océan, pour pondre l'œuf, élever le poussin. Et une fois que ça est fini, ils partent en pleine mer et puis ils passent le reste de l'année en mer.
Et ça reste un événement assez rare, hein, dans la vie d'un albatros. De pondre, déjà c'est œuf par œuf, hein, c'est un œuf quand ils le font et c'est pas tous les ans.
Oui, bah les albatros, hein, comme tous les ce qu'on appelle les procellariformes, donc ce qui regroupe également les pétrels, hein, sont des oiseaux marins qui pondent un seul œuf, donc ils ont une très très faible fécondité. Ouais. Et certains albatros pondent un seul œuf tous les deux ans, donc c'est encore moins fréquent, ce qui veut dire qu'à la fin d'une vie, un albatros n'aura pas eu beaucoup de poussins, mais ça c'est compensé encore une fois par une forte longévité qui peut atteindre jusqu'à 80 ans. Donc c'est un système démographique, je dirais, très très particulier.
80 ans de longévité, et pour les plus grands, parce qu'il y a 22 espèces d'albatros, mais pour les plus grands, c'est 3,5 mètres d'envergure. On a quand même affaire à de sacrés bestiaux, hein.
Ah oui, ce sont des beaux bébés. Alors, ils sont pas forcément très lourds. Un grand albatros, un albatros hurleur fait 11 kilos au maximum, donc c'est pas énorme. Mais effectivement, les ailes sont tellement longues et effilées qu'il atteint 3,50 m au maximum. Donc, c'est vraiment des petits planeurs. C'est les plus grands oiseaux volants en termes d'envergure, les plus grands oiseaux modernes.
Fabrice Genevoix, cette journée internationale des albatros est l'occasion aussi de s'intéresser à leur sort. Ces oiseaux sont-ils menacés?
Alors malheureusement oui, et c'est tout l'intérêt de faire une journée qui leur est consacrée. Sur les 22 espèces que vous avez citées, il y en a 18 qui sont menacées, dont certains même en danger d'extinction. Donc c'est vraiment important d'alerter l'opinion publique sur le fait que ces albatros, malheureusement, n'ont pas un avenir très très rose.
Alors qu'est-ce qui les menace notamment?
Alors il y a plusieurs choses. À terre, malheureusement, dans les îles où ils se reproduisent, dans l'océan austral, ils doivent faire face à l'introduction de prédateurs malheureusement assez vicieux, comme les souris. Mine de rien, les souris peuvent s'attaquer aux poussins et à force de les grignoter, eh bien, provoquent des hémorragies létales. Également des chats. Aux îles Kerguelen, par exemple, les chats s'attaquent aux poussins d'albatros. Donc ça, c'est une menace importante à terre.
Ça, ce sont des espèces invasives qui ont été introduites par l'homme sur ces petites îles des terres australes.
Oui, tout à fait. Alors, ils ont été introduits volontairement ou non. La plupart du temps, ils sont venus avec les bateaux des premiers navigateurs. Les souris, les rats, les chats ont été introduits en tant qu'animaux de compagnie. Ouais. Mais c'est vrai que les souris, malheureusement, sont maintenant partout sur les îles. Et malheureusement, elles ont des tailles assez importantes. Elles grossissent énormément. Elles deviennent quasiment géantes de la taille de petits rats. Ouais. Donc, elles font des dégâts importants aux poussins d'albatros.
Et puis, il y a aussi le danger de la pêche. On a une minute pour l'évoquer, Fabrice Genevoix.
Oui, alors pour faire bref, oui, le problème de la pêche, c'est vraiment le plus important, c'est la mortalité liée à la pêche industrielle, notamment en utilisant la technique de la palangre, des hameçons qui sont émergés régulièrement, et les albatros tentent d'attraper les appâts, et malheureusement attrapent l'hameçon en même temps, et sont drainés par le fond et meurent noyés. Donc ça, c'est un problème majeur, parce que des centaines de milliers d'albatros sont morts à cause de ces pratiques de pêche qui se font loin de nos yeux, malheureusement.
Ouais. Et ça, on pourrait le régler comment? On pourrait réglementer davantage ces pratiques de pêche?
Alors, on l'a déjà réglementé, il y a déjà des méthodes qui marchent pour effaroucher les albatros, mais le problème est surtout lié à la pêche illégale. Ouais. À peu près 30% des grandes pêcheries sont illégales, et donc eux n'ont que faire des réglementations, puisqu'elles sont illégales par définition. Donc c'est malheureusement dans ces pêcheries illégales que s'effectue la plus grande partie de la mortalité des albatros.
Merci Fabrice Genevoix de nous avoir alerté en cette journée des albatros. Je cite deux de vos derniers ouvrages dans lesquels vous parlez des albatros, mais pas seulement. Oiseaux de mer, chez Glénat, et Oiseaux marins, entre ciel et mer, aux éditions Quoé. Un grand merci à vous, Fabrice Genevoix.
Merci.
Et merci à nos amis de France Bleu Pays d'Auvergne pour le duplex depuis Clermont-Ferrand. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook du temps d'un bivouac et sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.